n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Vous travaillez à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des deux centraux dominants, celle qui s'exerce au jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire.
Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs de Radio Canu, Radio Belle et Rebelle. C'est la rentrée de l'émission Angle Mort, émission la plus irrégulière de la plus rebelle des radios, j'ai envie de dire. Émission donc de critique sociale et de sciences sociales critiques. Pour cette rentrée, on a prévu de diffuser une lecture de ce qu'on pourrait appeler l'affaire de Robien, une lecture que le réalisateur a intitulée « J'ai confiance en la justice de mon pays », de manière bien sûr un peu ironique. Affaire de Robien, où il a été condamné en mars 2015 pour homicide involontaire à 10 000 euros d'amende, on va dire enfin et finalement, parce que vous le verrez pourquoi, ça a été un long processus, donc 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis aussi, je le précise, et puis il a fait appel, donc l'affaire n'est pas terminée. Il s'agit en fait de la lecture d'extraits du livre de François Ruffin, intitulé « Hector est mort », un livre paru en 2013, donc à un moment où de Robien n'avait pas encore été condamné, et donc, je le rappelle, l'affaire n'est toujours pas terminée, puisqu'il a fait appel, et d'articles de Fakir, donc du journal Fakir, concernant cette même affaire. C'est une lecture qui nous a été proposée par l'association AYAPEC, une association basée à Mâcon, et on les remercie chaleureusement de, bah voilà, de nous avoir proposé de diffuser leur travail. Donc voilà, il sera question d'un accident tristement banal du travail dans le BTP à Amiens, mais sur fond de cet accident, il sera question plus largement d'injustice, d'impunité des puissants, de docilité des journalistes locaux vis-à-vis des élus, de précarité, de racisme de classe, de racisme tout court. À noter que cette lecture publique s'est transformée depuis en pièce de théâtre, que la IAPEC jouera le dimanche 18 octobre à 14h au Salon du Livre Libertaire à Cluny, donc c'est aussi en Saône-et-Loire, dans le 71. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit pour présenter cette lecture. Je vous laisse le soin de l'écouter, c'est très très intéressant et voilà.
J'ai confiance dans la justice de ce pays. Une lecture du livre Hector est mort de François Ruffin avec les lecteurs de l'AIAPEC, Léa Vincent, Sophie de la Rue du Four, Yves Bassin. Procès verbal 2002-00-3201-1. L'an 2002, le 22 février à 10h40. Nous, Jérôme Piau, capitaine de police, sommes avisés par notre station directrice qu'un accident mortel vient de se produire au chantier d'insertion de la citadelle d'Amiens. Sans désemparer, nous transportons au moyen de notre véhicule administratif sur le chantier. Au sol, au milieu du mur en construction, constatons la présence du corps sans vie d'un homme de race noire, vêtu d'un blouson beige, d'un polo de la même couleur, d'un pantalon de velours marron, chaussé de chaussures de sécurité et portant des gants de laine noire. Il est allongé sur le dos, son épaule droite contre le mur en construction, les jambes légèrement repliées. Il présente un trou au milieu du crâne. Son blouson est taché de sang. Sa tête repose sur un bastin de bois et à proximité d'un élément d'échafaudage. Un casque de chantier cassé se trouve au niveau de sa jambe gauche. Saisissons et plaçons sous scellé ce casque blanc de chantier cassé. La victime est cernée par les blocs de briques anciennes tombées. Renseignements pris, il s'agit du nommé Lubota Hector, né le 20-8-82 à Brazzaville, Congo, employé en contrat emploi solidarité sur le chantier. Sans désemparer, nous transportons au numéro 14-327 rue Léo Lagrange à Amiens afin d'aviser M. Lubota Bernard, père de la victime du décès de son fils. Faisons retour au commissariat. Il est 13h30.
J'ai confiance dans la justice de ce pays. C'était il y a 11 ans. J'achevais mon enquête sur la mort d'Hector, écrasé par 600 kilos de briques sur le chantier d'insertion de la citadelle. Pour clore ce dossier, je m'asseyais dans le salon des Lubota. Pour eux, c'était une tragédie, un fils aimé, la joie de leur jour, l'inquiétude de leur nuit, dont le rire résonnait dans l'escalier et qu'on retrouve soudain à la morgue, sous un drap blanc.
Quand le père a asséné « J'ai confiance dans la justice de ce pays », je me suis abstenue. J'ai à peine répliqué, timidement, mais sans insister, « Pardonnez-moi, monsieur, mais je n'ai aucune confiance dans la justice de ma ville. »
C'est que je m'y étais déjà frottée aux tribunaux amiénois, où la déférence pour les notables sert de loi, où l'ordre social importe davantage que le code pénal, où le respect échine courbé devant les puissants, tient lieu de jurisprudence aux magistrats. J'avais vérifié tout ça empiriquement, en position d'accusé, mais j'avais 20 ans et quelques. Bernard Lubota était un homme mûr, ancien diplomate, exilé du Congo pour raisons politiques. Je n'allais pas lui apprendre la vie.
Ils avaient reçu des avertissements pourtant déjà. Aussitôt après le drame, une personne de la mairie leur avait rendu visite. Pas un élu, non, pas un adjoint, pas l'intendant du chantier, une médiatrice. Et pour leur conseiller quoi? Mieux vaudrait ne pas porter plainte, ça ne sert à rien d'ébruiter. À quoi bon en effet? C'est pas ça qui vous le rendra. D'emblée, la volonté d'étouffement était manifeste.
C'était il y a 11 ans, donc. Depuis, une eau bien trouble a coulé sous les ponts de la Somme. Les omissions de l'instruction, les promesses du procureur, la légèreté de sa substitute, la désinvolture de tous ces gens de robe, jusqu'à la timidité de leur propre avocate. Pour les Lubota, c'est le mensonge qui a éclaté en plein tribunal. Lorsque je vous vois pour la première fois en 2002, Je croyais encore au pays des droits de l'homme, à la démocratie, s'excuse presque Bernard Lobota. Vous n'avez pas idée du prestige de la France à l'étranger. Il m'a fallu un coup dur sur la tête pour que je déchante. Je suis un homme de droit international. Je voulais tout faire dans la légalité, surtout avec des élus impliqués. Moi, à l'époque des faits, je les respectais. Il est désormais ruiné ce respect, brisé cette confiance. La famille est prête pour la bataille. Il faut s'y remettre alors, 11 ans plus tard. C'est un coup de pied dans la fourmilière qu'il faut donner.
L'accident. Dehors, il pleut, il vente. Mais pas question pour Hector de sécher le chantier. Il décevrait trop son père. Le col de son blouson rabattu sur les oreilles, Hector fait un détour par la barre Mozart pour capter son copain Rachid. Les deux amis bossent côte à côte sur le rempart. Dans une minute, l'un survivra, l'autre mourra.
Rachid, j'avais grimpé sur l'échafaudage. Juste 5 minutes, je n'étais pas en confiance. J'étais redescendu tout de suite, ça branlait. Il y avait 2 tréteaux et 3 bastins, une sécurité merdique. Et le mur pliait, il se gondolait. Franchement, même avant la catastrophe, j'avais peur. Plus la semaine avançait, plus on voyait le mur bouger. Et ce vendredi-là, on aurait dû être en intempérie. C'était stipulé dans notre contrat. En cas de pluie, pas de maçonnerie en extérieur. Après ça, notre chef, Jacques, il est venu faire le malin. Avec une barre à mine, à bout de bras, debout sur un tas de briques, il a dégommé 2-3 pierres qui dépassaient, en haut, sur la couronne. Des coups de masse assez violents. Et puis, il est reparti, aux 4 coins de la citadelle. Ou alors il s'est mis au chaud. On s'est retrouvés à 2, un 3e, Freddy, préparait le café dans le bungalow. Nous, on s'est dit, bon, on va pas le faire gueuler pour rien, on travaille les 10 dernières minutes.
Mais qu'est-ce qu'il faisait Hector à ce moment-là? Certains affirment qu'il démontait le mur par le bas.
En général, on démontait par le bas, mais doucement. Là, Jacques avait cogné comme un bourrin. On n'avait même pas de filet pour retenir la terre. Ce matin-là, moi, je ramassais les pierres et Hector nettoyait juste la craie, debout sur les planches, jusqu'au chamboulement. Au moment où ça s'écroulait, j'étais en train de revenir vers le mur. Je me suis retrouvée enterrée sous les gravats, moi aussi. Et voilà que Jacques m'ordonne de chercher le chef. Il voulait rigoler ou quoi? Quand Corroyer arrive, il me demande « Ça peut aller ?»« Tu parles de comique. »« Bah oui, je tiens debout. Mais l'autre copain, il faudrait peut-être s'en occuper. » Après mon séjour à l'hôpital, j'ai voulu porter plainte. Au poste de police, ils ont refusé. Ils ne m'ont même pas aidé à écrire au procureur, ni rien, ni indiquer la voie à suivre. Des instants comme ça, tu sens vraiment que tu comptes pour rien. Tu souffres seul. Cette nuit encore, malgré les calmants jusqu'à 5 heures, j'ai essayé de dormir. Je revois toujours la scène. Juste son casque qui dépasse du tas de cailloux, et un peu de son bras. Ensuite, les os du crâne qui sortaient. Les coudes, tout déchirés. Je m'imagine sans cesse, et si on avait arrêté plus tôt? Et si on avait désobéi au chef? Sûrement qu'il serait encore vivant.
Albertine, la mère. Ce jour-là, je m'en souviendrai toujours. J'ai entendu sonner. Mince, je me suis dit, il est déjà l'heure, hein? Le repas n'est pas encore prêt. Là, j'ai vu les uniformes de la police. Les policiers, je croyais, c'était pour des délits, pas pour annoncer la mort. Ils m'ont parlé d'un accident. Attendez un instant, je leur ai dit. Je vais mettre mes chaussures pour aller à l'hôpital. Non, ce n'est pas à l'hôpital, malheureusement. C'est à la morgue, pour aller reconnaître le corps. J'ai cru que je rêvais, que j'allais me réveiller. Je me souviens que la veille au soir, ils avaient discuté longtemps dans la cuisine. « Va te coucher, je lui ai dit, tu vas rater ton boulot. » J'ai appelé ça comme ça. C'est à cause de moi s'il est parti là-bas. Je voulais le cadrer. Voilà pourquoi je l'amenais à la mission locale. Je cherchais des stages avec lui. Je voulais éviter qu'il tombe dans des bandes, dans la drogue, qu'il traîne dans les cités. Aujourd'hui, sans ses efforts, il serait peut-être en prison, mais il serait en vie au moins.
La justice nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de vis que le dealer de ma rue.
Le chantier. Le mur est-il tombé sur Hector par hasard? Sur le chantier, il était parmi les plus dociles, obéissant aux ordres, respectueux de l'autorité et d'une autorité qui en abusait. Une soumission qui agaçait Noureddin, un musclé de la cité peu loquace et qui me prend pour un Hergé. C'était son souffre-douleur?
Voilà, c'était le seul black et le plus jeune, même pas 20 ans. Alors il en profitait, l'autre enfoiré. Nous, les Arabes, on était trop nombreux. Mais son racisme, il me tapait sur les nerfs. J'aurais fini par le claquer, ce mec.
Pourquoi tu aurais? Il est parti?
Ouais.
À cause de l'accident?
Non. Pendant les élections, il a ramené des affiches de Le Pen. Il les distribuait à la citadelle.
Un personnage comme ça, comme un cadran, c'est bizarre.
Il n'y a que ça à la citadelle.
Et les échafaudages? Tu peux parler des échafaudages?
Ils sont réglo maintenant.
Mais avant?
Avant, ça tremblait. Il bricolait des cales.
C'est à cause de ça, si Hector est tombé?
Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Même avec un vrai échafaudage, il terminait au cimetière. Hector, on lui avait demandé d'abattre le mur par le bas. Forcément, ça lui tomberait sur la figure.
Par le bas?
Oui, par le bas.
Par le bas?
Depuis, tout a changé. On recommence par le haut.
Par le bas, t'es sûr? Par le bas?
Faut te le répéter combien de fois?
Devant l'entrée neuf, bar Mozart, Jamel a conservé de son collègue un souvenir plus lumineux. Avant qu'Hector n'arrive, on était triste, et il a amené la bonne humeur. Je te jure, grâce à son sourire, on est devenu la meilleure équipe, soudée, pas une balance dedans. Mais lui décrit la même violence verbale, sous couvert d'humour. Jacques lui disait, « Remonte dans ton cocotier, va manger des bananes. Sale négro, je vais te mettre une claque dans ta gueule, t'iras te plaindre à ta mère. Retourne grimper des chèvres en Afrique. Vos camions, vous les faites rouler avec des bananes. » Il le sifflait, comme un larbin, sincèrement. « Va chercher le sable, les briques, la pelle. » Il courait partout, là, là, là. Bientôt, il dessinait la carte de France. Devant, Hector, il rigolait. Mais derrière, il enrageait. Un jour, on ne l'a plus reconnu. Il a voulu prendre une pioche et l'éclater dans le dos de l'autre. Ça bouillait. Il a fallu qu'on l'arrête. Un incident avait déjà alerté Jamel. Le mur, un mois plus tôt, un bloc, Walhaladim, il m'est tombé sur la tête. J'étais sonné, sincèrement. J'ai regardé mon casque, tout fissuré, une chance que je le portais. On avait déjà écopé des petits bouts, mais alors là... 3 minutes après, Jean arrive, toujours en balade, lui. Il m'emmène au bungalow et on a changé de casque. C'est tout. Incident clos. J'ai fait fausse route d'abord. Mon enquête s'est dirigée les premiers temps contre cet encadrant bien étrange, raciste, injurieux, incompétent, qui faisait démonter un mur par le bas. C'était une erreur. Je regardais le doigt plutôt que la lune. Il me fallait lever le nez vers plus haut, vers les sommets de la hiérarchie.
La presse. Aux archives de la bibliothèque municipale, je photocopie une page du courrier Picard du 23 février 2002. Sous une photo du mur fatal, cette phrase d'anthologie résume l'esprit du papier. Rien n'explique encore cet accident, sinon peut-être les pluies de ces derniers jours et le vent. Des aléas météorologiques vraiment inédits en Picardie qui éliminent, cela va de soi, toute responsabilité de l'employeur.
Dans tout l'article, un seul témoin intervient. Et quel témoin? Patrick Tréhel, directeur général des services de la ville d'Amiens. Le haut du mur est étayé selon une méthode déjà éprouvée, assure Patrick Tréhel. Ces remparts sont surmontés de talus et d'arbres dont les racines ont peut-être fragilisé l'ensemble. D'ailleurs, plusieurs centaines de mètres ont déjà été restaurés de cette façon, sans aucun incident.
Certes, lui-même n'a guère assisté à la scène, certes, il n'est arrivé qu'après coup. Certes, il n'a jamais travaillé sur ce chantier, mais qui, mieux que ce directeur général, pourrait apporter un avis impartial sur ce drame?
Le reporter reproduit donc fidèlement son analyse, marquée du sceau de l'indépendance. Cadre administratif de la mairie, numéro 2 ou 3 selon les classements, M. Tréhel abandonnerait volontiers son salaire, son statut, ses attributions, etc., pour que triomphe la justice. Devant tant de bonne foi, puisque le doute ne subsiste pas, le redoutable enquêteur se garde bien de la moindre question sur les échafaudages, la démolition par le bas, l'encadrement. Aucun point d'interrogation ne parsème son article, juste cette conclusion répétée en légende photo. Rien n'explique encore cet accident, sinon peut-être les pluies de ces derniers jours et le vent. Seules ces intempéries, donc, avec les racines des arbres à la rigueur, devront figurer au banc des accusés.
Tout se révélait si parfait, il n'y avait tellement rien à fouiller, à commenter, à critiquer, qu'à mi-longueur, après une petite colonne et demie, en ce jour de deuil, il ne restait plus à l'auteur qu'à pousser un cri du cœur pour louer les bienfaits de la ville. Eh oui, ils sont 130 à se relayer par équipe, autour et sur les remparts pour des travaux de réfection. Ils bénéficient d'un contrat emploi solidarité et plusieurs dizaines d'entre eux ont déjà trouvé un emploi fixe dans le bâtiment. Ce chantier représente énormément d'espoir pour certains d'entre eux, souligne Patrick Tréhel. Pour mener cette analyse, combien de CES, de bénéficiaires, a interrogé le rédacteur? Aucun. Où sont les preuves de cette insertion? Nulle part. Lui ne s'abaisse pas à user de méthodes aussi laborieuses, réservées aux débutants. Ce gradé de la mairie respire la sincérité. C'est une évidence. Point.
Plus un papier ne paraîtra sur le sujet, plus une ligne. Passé le 23 février, Hector est tombé dans les oubliettes. Au même moment, une jeune femme, Christelle Dubuisson, était assassinée dans le Santerre. Le courrier Picard menait l'enquête pour le coup, consultait 26 témoins, publiait 23 articles et 60 photos, y consacrait 12 fois sa une. L'exercice du contre-pouvoir est une rude mission.
Qui défend nos droits? La justice pourquoi? La justice nique sa mère. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de pistes que le dealer de ma rue. Les...
Salarié d'une association d'insertion, Louis formait les jeunes à la citadelle avant d'en partir, le cœur gros.
Pour moi, en première ligne, c'est Corroyer. Des fois, je lui ai dit, il va y avoir un accident. Des fois, il m'a répondu, c'est pas vos affaires.
Qu'est-ce qui clochait?
Tout. Dans ma salle de formation, je donnais des cours de coffrage, d'élévation de briques, de sécurité de l'individu, de sécurité du chantier. Quand les gars jetaient un œil par le plexi, ils me riaient au nez. Dans mon bouquin, par exemple, il y avait des dessins de poutres posés sur des parpaings. C'était barré, avec un gros nom. Dessous, des échafaudages normaux, avec un grand oui. Il me montrait les tréteaux branlants dehors, juste devant nous. Et ça alors? Ça non, il ne faut pas. Vous devez protester, refuser de monter. Je me faisais engueuler par Corroyer derrière, à cause des jeunes qui revendiquaient. La solution qu'il envisageait, à la limite, c'est de supprimer les croquis dans mon guide. En réunion d'encadrants, je me retrouvais seule contre tous. Je l'ai mal vécu, cette période. Tu limites les risques, on te plombe pour faute professionnelle. Il a fallu un mort. Je m'en souviens d'Hector, un large sourire dans la salle. Il était envoyé par son père en punition, grosso modo. Le gosse est écrasé sous une tonne de pierre et on la ferme encore, comme si de rien n'était. On répète que c'est la fatalité. Je me suis barré, moi, de ce nid de faux cul. Je me sens mieux ici avec mes gars.
On m'a raconté, mais ça me paraît trop gros, que le mur était démonté par le bas.
C'est exact.
Mais comment c'est possible?
Je n'avais jamais vu ça avant. Jamais. Une méthode inédite en 20 ans de carrière. Tout se faisait à l'envers. Alors, pourquoi pas démonter les murs par le bas? Je vais te dire, on a pris les fauves du quartier, on les a enfermés là-dedans et point barre. Le voilà leur programme social. Après, la ville, elle peut se glorifier, un chantier modèle, que du pipeau. C'était la misère à l'intérieur. Il n'y avait même pas une infirmerie, même pas une armoire à pharmacie, même pas un lit, alors que c'est bourré de toxicos et d'alcoolos. On n'avait pas de gants, pas de lunettes, pas de réfectoire. Il n'y avait aucun suivi, pas d'assistante sociale, pas d'éducateur. La liste des pas, elle n'en finirait jamais. Il n'y avait rien. Ils la pratiquent comme ça, l'insertion. Et ils s'en vantent en plus.
Ce n'importe quoi, nous l'avions déjà perçu, voire mis en lumière, avant même l'accident. L'ancien président de Fakir, Emmanuel de Crouy-Chanel, nourrit une passion pour l'architecture, notamment médiévale. En octobre 2000, ce professeur de droit publiait un article intitulé « Citadelle, quand la municipalité joue au casse-brique ». Je le cite. « La ville s'est lancée bille en tête depuis avril dans la restauration des remparts, sans aucune étude scientifique préalable du monument. » Un rapport remis en 1995 au bureau municipal, après avoir rappelé que les parties à grande valeur historique sont trop rares pour que l'on n'y attache pas une très grande attention, préconisait pourtant un diagnostic technique des murs effectué par un laboratoire spécialisé qui permettrait d'envisager les moyens les plus adéquats pour leur réfection et leur entretien. Ces recommandations sont restées sans effet, comme l'admettent benoîtement les services de la mairie. Au départ, on pensait que c'était les joints de briques à refaire, la complexité n'avait pas tellement été soupçonnée. Au cours des opérations de débroussaillage et de bûcheronnage, on a fait tomber avec entrain les parements fragilisés par les racines des arbres. Des parements décollés à 4-5 mètres du sol présentent certainement un danger sérieux, estime M. Zuretti des Bâtiments de France. Mais comme il n'y a eu ni étude préalable, ni architecte nommé sur le chantier, il est difficile de se prononcer a posteriori sur le bien fondé des opérations. Et l'auteur concluait avec une quasi-prescience « Gageons qu'à continuer ainsi à l'aveuglette, les travaux de la citadelle ne réservent encore quelques surprises à une municipalité pressée d'aboutir. » Un an et demi avant le drame, ce papier aurait pu servir d'avertissement.
L'expertise. J'ai accédé au dossier d'instruction. Je me suis assis dans un coin et tranquillement, j'ai recopié quelques passages. Voilà ce qu'on appelle, je suppose, une investigation.
Le premier expert relève que les piquets de bois étaient séparés de 27 mètres, alors qu'il aurait fallu procéder à des étaiements réguliers plus rapprochés. Par ailleurs, le bandeau en haut du mur se trouvait dans le vide, sans base, la partie supérieure ne tenait que par la terre, par la matière végétale. C'est à cause de la méthode employée. Le technicien rejoint le sens commun, lui ajoute qu'une partie du mur s'était déjà effondrée en 1974 et que travailler dessus réclamait donc une extrême précaution. Elle ne fut pas franchement au rendez-vous, à lire le second expert.
Lui s'embarrasse encore moins de diplomatie. René Cessy note que le maître d'œuvre, la ville, avant tous les travaux, aurait dû établir un état de l'existant, fissuration, déformation, résistance, stabilité du sol. Ces sondages auraient dû mettre en exergue des risques d'éboulement de terrain, des risques d'effondrement d'ouvrage. Or, aucun document écrit en ce sens n'est disponible. L'expert liste alors les lacunes, ou plutôt les béances, aucun filet de protection, aucun suivi régulier, aucune analyse préalable, aucune mesure de prévention, aucune sécurité collective, aucune précision sur le nom des personnes chargées de la sécurité. En clair, rien. D'après lui, on n'avait prêté aucune attention à la sécurité. C'est la pièce clé, cette expertise. Aucune partie ne la contestera. Personne n'en réclamera une seconde, une contre-expertise.
Ne demeure plus dès lors qu'une seule question. Qui avait pour responsabilité, avant le démarrage du chantier, de commander cet état de l'existant et de mettre en œuvre les mesures de sécurité adéquates? Un élu ou un administratif? Un cadre de terrain ou un homme de dossier? Le chef du site, Jacques Corrier? Le directeur du secteur, Jean-Marc Morel? Le directeur des services de la ville, Patrick Tréhel, ou l'adjoint en charge du dossier, Bernard Nemitz? L'adjointe du secteur, Brigitte Fourré? Carrément le maire d'Amiens, Gilles de Robien.
À la mairie, j'ai parcouru les procès-verbaux du conseil municipal. Il y a de la joie chez les élus amiénois qui mènent leur bonne action sous les applaudissements. Et le drame n'entame qu'à peine leur allégresse. Ainsi, de Bernard Nemitz, adjoint en charge de l'exclusion et donc de ce dossier, tout à fait stupéfait de la rapidité avec laquelle le site se transforme et retrouve un aspect chatoyant. À son tour, Gilles de Robien s'enthousiasme. C'est vraiment une très belle initiative et je tiens à le dire à tout le monde. C'est vraiment une œuvre utile et une belle initiative des élus, des services et de ceux qui les encadrent. Et le consensus n'épargne ni la gauche ni le Front National. Je voterai pour ce dossier à titre exceptionnel, vu son caractère exemplaire que vous avez vous-même souligné, annonce Lionel Paillet, le leader frontiste. De l'avis général, le bonheur est dans le chantier. On y voit, assure Gilles de Robien, des gens qui travaillent, qui apprennent et qui sont heureux. On peut suivre ce progrès considérable à la fois pour les hommes, je l'espère, et en même temps pour la beauté de la ville. Qui, en effet, persisterait dans la mélancolie avec la moitié d'un SMIC mensuel. Le futur ministre de l'Éducation, lui, sait se contenter de peu et se veut partageur. Nous utiliserons d'autres dispositifs pour qu'un maximum d'Amiénois puissent bénéficier du chantier d'insertion. Chaque habitant n'aspire, c'est bien connu, qu'à bénéficier d'une pareille opportunité.
Cet idéal de charité, plutôt que d'égalité, on le retrouve dans « Hors la loi », un essai autobiographique signé Gilles de Robien. Dans sa lignée, explique le comte, servir les habitants était une tradition. Cela allait de l'assistance et des conseils que pouvait fournir mon père, lui-même exploitant agricole, à l'aide assurée par ma mère, qui s'inquiétait toujours de qui était malade, qui avait eu un accident, qui allait se marier. Le village était une grande famille. Pour les gens en difficulté, ma mère quêtait dans tout le département. Pour eux, elle organisait des kermesses, des réunions, des tombolas. Aussi, rêve-t-il d'étendre cet assistanat à la France tout entière. Vivre avec 750 euros par mois, personne ne peut estimer ce montant excessif. Cependant, en termes de production et d'emploi, pour certaines branches professionnelles, c'est un frein quand on y ajoute les charges. La solution proposée par le système américain n'est pas mauvaise. Pour parvenir au minimum vital, les plus petits salaires sont complétés par une aide versée par l'État. Des salariés qui travaillent à mi-temps et perçoivent le minimum vital. C'est déjà le paradis.
Jeudi 3 octobre 2002. Je téléphone au cabinet du maire pour un rendez-vous avec un responsable politique. Ma demande est transmise au service de presse. Vendredi 4 octobre, j'appelle le service de presse. « Nous avons reçu votre demande », m'annonce le chargé de com. Je l'ai faite remonter. Lundi 7 octobre, j'adresse un recommandé à la mairie. Des élus ont déjà, à la télévision, largement vanté les mérites du chantier. Nul doute qu'ils auront à cœur de développer à nouveau ce point de vue. Mardi 8 octobre, je rappelle le chargé de com, agacé par mon insistance. « Si je ne vous ai pas recontacté, c'est que personne, pour l'instant, ne souhaite communiquer. Vendredi 11 octobre, ultime tentative, un fax à Gilles de Robien. Je m'apprête à porter de graves accusations contre votre municipalité. Je regrette de n'avoir pas de vos nouvelles. Peut-être est-ce dû à un dysfonctionnement interne. C'est pour prévenir ce mal que je vous adresse à vous directement, vous, qui étiez maire à l'époque des faits, ce courrier. Jeudi 17 octobre, pour toute réponse, je reçois un fax, signé, bien sûr, de Patrick Tréhel, directeur général des services de la ville d'Amiens. La témérité des décideurs me surprend. Pour aller parader à la citadelle devant micro, stylo et caméra pour organiser des visites de ce parc à gueux, ni Gilles de Robien, ni son adjoint Bernard Nemitz, ni les seconds couteaux ne se font prier. En revanche, pour se confronter à ce drame, c'est courage, fuyons. En guise d'explication, le document réceptionné contient une menace voilée. En cas de publication d'informations erronées et ou à caractère diffamatoire, la ville d'Amiens se réservera le cas échéant la possibilité de rétablir la vérité par toutes les voies de droit.
Au conseil municipal du 22 mai 2002, Gilles de Robien invoquera finalement des conditions météorologiques exceptionnelles. La version principale, c'est qu'il s'est accumulé une masse d'eau tellement importante derrière les murailles de briques, du fait des pluies exceptionnelles de ces dernières années, que toute cette eau a fini par pousser l'écrêtement du mur. Cela s'est fait au cours des décennies passées. Loin de disculper la ville, cette version principale et municipale l'accable davantage encore. Comment ne pas avoir évité cette tragédie alors qu'on disposait d'années, voire de décennies, pour prévoir cet effondrement et pour le prévenir? Alors que, avant l'ouverture du chantier, un examen aurait permis de détecter cette masse d'eau tellement importante derrière les murailles? Alors que l'écrêtement du mur se déplaçait lentement, mais sûrement depuis des lustres? Au vu de tous ces documents, la ville a dépassé le stade de la négligence, de l'erreur ou de la faute. Au-delà même de l'inconscience ou de l'incompétence. Ces pages respirent autre chose, de la désinvolture, du mépris de classe, comme si les vies de pauvres ne valaient déjà plus rien.
Génération. Vous avez délaissé la jeunesse de votre nation. Mais le tempo est adéquat pour cadencer l'assaut. Il sonne la charge, il est le porte-drapeau. Il cadence mes mots. Face à une incompétence, mon esprit s'active et pense aux différentes manières de remédier aux problèmes. Je coule à flot dans tout domaine et enchaîne pour mieux vous taire. Je glisse.
L'affaire. Un vol à la tire est jugé sous 48 heures. Un trafic de drogue, c'est 6 mois, grosso modo. Un assassinat, 2 ans, on va dire. Là, il aura fallu 7 ans. Du 22 février 2002 au 26 mars 2009, 7 ans, entre l'accident et le jugement. Que s'est-il passé durant ces 7 années? Je ne sais pas. Rien. Ou pas grand-chose.
Le dossier Loubota? Voyons voir. Prenons d'abord, consciencieusement, connaissance des faits. Tiroir du haut, tiroir du bas, j'ouvre, je referme, etc. 3 mois s'écoulent. Commandons donc un rapport à l'inspection du travail. 3 mois de gagné. Demandons l'audition d'un camarade d'Hector. Encore 3 mois, etc. Jusqu'à obtenir une mutation, loin d'une Picardie froide et grise, et à passer l'instruction au suivant. 4 juges vont se succéder. Nommons-les, il n'y a pas de raison. Xavier Strezel ouvre le bal, Isabelle Rome, puis Céline Méchin prennent le relais. La doyenne, Bénédicte Flavigny, conclut cette course de lenteur. Un marathon d'autant plus surprenant, mystérieux même, que dès les premières semaines, l'enquête avance à grands pas. Presque achevée. La cause du drame, l'absence d'analyse du bâti, est rapidement établie, ne laisse pas l'ombre d'un doute. Il ne reste plus quasiment qu'à en déterminer le ou les responsables. Autant dire le sprint final. Et voilà que d'un coup, on hésite. Tout se ralentit. S'embourbe. S'arrête.
C'est que plane une ombre sur cet homicide involontaire. Une longue silhouette. Gilles de Robien, député maire d'Amiens, ministre des Transports, puis de l'Éducation nationale. Aïe, il n'y a que des coups à prendre. Mauvais pour la carrière. Mieux vaut mener cette enquête avec une extrême délicatesse. Il n'y a pas à obéir au ministre, ni même à le déclarer innocent. Il suffit de ne pas faire, ne pas l'interroger, ne pas le citer, ne pas le mettre en examen, ne pas perquisitionner la mairie. Et pour cette abstention, une discrète inertie suffit. C'est l'inverse. Continuer à faire son travail, comme si de rien, sans acharnement mais sans mollesse, qui réclamerait de l'audace, une sereine audace. Qui assurerait ensuite une réputation de trublion, de matuvu, auprès des collègues bien calés dans leur fauteuil, accrochés à leurs ordres. Mouton noir un peu parmi la nomenclatura locale. Il faut du tempérament pour se tenir droit face à ces vents contraires, pour en faire une fierté même de cette solitude morale, pour se forger une personnalité dans cette adversité. Courant 2007, quand même, Bernard Lobotka finit par trouver le temps long. Au bout de 5 années, l'instruction doit être en bonne voie. Ou cherche-t-on à enterrer le dossier? Il écrit au procureur de la République, Patrick Beau, qui le reçoit dans son bureau, lui garantit sa sympathie, lui promet main sur le cœur que l'affaire sera menée jusqu'à son terme. Prudemment, patiemment, le tribunal d'Amiens attend encore 2 ans néanmoins que Gilles de Robien ne soit plus ni ministre, ni député, ni maire. Sa remplaçante à l'hôtel de ville, Brigitte Fourré, est mise en examen par la juge Bénédicte Flavigny. Un sursaut. Mais la chambre de l'instruction annule cette décision trop courageuse. La responsabilité pénale de la ville d'Amiens, personne morale, ne peut être engagée et le non-lieu à suivre apparaît légalement justifié. Dans les mailles du filet, reste donc un vague directeur de service, un inconnu, un monsieur Morel, qu'on inculpe. Monsieur Lobotka, ça lui convient. Il ne réclame pas la tête du maire, ni de personne. Si la justice estime que c'est de la faute à Morel, alors va pour Morel. Encore confiant. Mais l'audience va le secouer, lui et sa famille, comme un électrochoc.
Sa mère, le dernier juge que j'ai vu avait plus de risque que le dealer de ma rue. Tous les que ma...
Audience du 26 mars 2009. Mon client est le seul à se retrouver au banc des accusés parmi des centaines de décideurs dans ce dossier. Maître Engelegueul plaide pour Monsieur Morel et son numéro est attendu. Lui ne serait qu'un bouc émissaire, ne disposait d'aucune délégation de pouvoir dans le domaine de la sécurité. Lorsqu'on n'arrive pas à trouver un responsable, il faut faire sauter un fusible, etc. Mais, au milieu de sa plaidoirie, il exhibe une nouvelle pièce.
Un courrier de Vincent Brunel, architecte en chef des monuments historiques, qui adresse au maire d'Amiens une proposition d'étude diagnostique des remparts de la citadelle. La lettre est datée d'avant l'accident du 15 février 2000. Cette étude aura pour but de diagnostiquer l'état des remparts et d'évaluer le mode d'intervention pour les restaurer. Délai 4 mois dès notification de la commande. Montant de l'étude, 13 000 euros. Bernard Nemitz, l'adjoint en charge du chantier, livre ses observations le 14 mars 2000. « Je pense que l'on ne peut se passer de cette étude », a engagé sur le crédit 2000 m'en parler SVP.
Le maire, Gilles de Robien, le retient. « Bernard, ne pas signer sans m'en parler, je ne suis pas certain qu'on ait besoin de l'architecte des bâtiments de France. » Ces quelques pages, livré à la barre, change la donne. C'est une cause exonératoire de responsabilité, clame l'avocat, sûr de remporter la partie. Et le prévenu lui emboîte le pas. La solution qui était préconisée n'a pas été retenue au niveau politique. Qui vous a dit qu'il fallait attendre? Gilles de Robien, souffle l'accusé. Il l'a écrit sur un document remis à Bernard Nemitz.
On me ferait un coup pareil, moi. Je me dirais, on se fout de ma gueule. Et je piquerais une satanée colère. Depuis combien de temps, en effet, M. Morel et son avocat possèdent-ils cette information? De son propre aveu, depuis le printemps 2000. Comment se fait-il alors qu'il n'en ait rien confié en 7 années d'instruction, qu'il ait attendu comme ça le dernier jour pour sortir un joker de sa manche? Ou encore, pourquoi Bernard Nemitz et Gilles de Robien, élus de la République, soucieux de leur honneur, de leur responsabilité, modèle de civisme, n'ont-ils pas d'eux-mêmes signalé cet épisode? Comment ne pas croire, après tout ça, que le scénario est écrit d'en haut? Il est simple. On va laisser les foudres de la justice se diriger vers vous, Monsieur Morel, mais ne vous inquiétez pas. Nous vous fournissons le paratonnerre, le voici. Vous n'aurez qu'à le sortir, à l'ultime minute, pas avant. On se moque de la justice ici. Les juges d'instruction, le parquet, la présidente du tribunal sont menés en bateau sur une fausse piste durant des lustres. mais toute la question, toute l'ambiguïté réside là. Sont-ils menés ou se laissent-ils mener? Volontairement, involontairement, consciemment, inconsciemment? À l'audience, le procureur se lève. Ou plutôt, sa substitute. Parce que, malgré toute sa sympathie, ses assurances et sa garantie, le procureur Beau ne s'est pas déplacé en personne. Donc, la substitute, nommons-la, Françoise Dalle, se lève.
Peut-être que nous n'avons pas mis en examen la bonne personne. Peut-être que nous aurions dû poursuivre le directeur général des services ou le maire d'Amiens.
Peut-être. Et ce conditionnel passé incertain, aurions dû. Trop tard. Tant pis. Désolé. On s'est trompé de personne. On ne peut plus rien faire à présent. Et de baisser les bras, avant même d'avoir combattu. Du coup, elle ne requiert aucune peine contre le prévenu, contre personne. Formidable, non? Après 7 années de réflexion, les juges décident de poursuivre un tel à la place de machin. Mais le jour J, on se dit finalement c'est machin plutôt qu'un tel. Et on relâche tout le monde. La justice est dupée, mais consentante. Tous ces tours de passe-passe dans le dos d'une famille éplorée.
Le jugement est rendu le 1er juillet 2009. Qu'on ne joue pas sur la corde du suspense, la relaxe est acquise. Mais ce texte mérite lecture, lui aussi. Il résulte des documents produits par M. Morel et des déclarations de celui-ci, qu'alerté dès l'année 2000 par l'architecte en chef des monuments historiques sur la nécessité de recourir à une étude diagnostique des remparts de la citadelle, la ville d'Amiens n'a pas donné suite à ses recommandations. Par la production de ces documents, M. Morel justifie en ce qui le concerne qu'il ne disposait d'aucun pouvoir de décision en la matière, puisqu'à la suite du courrier de l'architecte des monuments historiques aux élus, il va recevoir un courrier d'un élu lui indiquant qu'il conviendra de recourir à l'étude préconisée dont la dépense devra être engagée sur le budget 2000, mais qu'il devra de toute façon en référer à cet élu avant que celui-ci ne reçoive ultérieurement l'ordre de ne rien engager.
C'est l'anonymat ici qui est remarquable. Il va recevoir un courrier d'un élu. Il devra de toute façon en référer à cet élu. Un élu? Quel élu? Le tribunal préfère taire son nom. Ainsi s'arrange-t-on au long de ces 9 pages pour ne jamais désigner ni Bernard Nimitz, ni Gilles de Robien. La timidité des magistrats, sinon leur servilité, est traduite en des formules alambiquées. À l'énoncé du délibéré, M. Lobota ne retient plus son indignation. C'est une parodie de justice! Et d'éprouver le sentiment d'une trahison, lui qui avait tant confiance, lui qui avait cru en la parole du procureur. Son avocate s'échappe du tribunal, les larmes aux yeux. Au téléphone, elle m'esquive, jamais joignable, toujours en communication, des semaines durant. Comme j'insiste, je décroche un rendez-vous. Je patiente dans sa salle d'attente, et quand elle arrive, elle ne me salue pas. Pas un bonjour, pas une politesse minimale. Chaude ambiance. Je devine pourquoi. Elle culpabilise au fond, et sa colère contre elle-même, elle la retourne contre moi, qui vient remuer le couteau dans cette plaie.
C'est un dossier politique, lâche-t-elle. Jamais, jamais je n'ai mis en cause Gilles de Robien directement. Alors que je n'ai jamais prononcé son nom, alors que ce n'était pas du tout dans mon intention, je me suis fait convoquer par mon bâtonnier. J'espère que vous ne comptez pas créer des ennuis à Monsieur de Robien, m'a-t-il prévenu.
Elle aurait pu passer outre. Elle aurait pu pointer Gilles de Robien et son bâtonnier, et l'instruction d'une lenteur incompréhensible, et le parquet plus prompt à châtier les voleurs de poules que les bourreaux d'Hector.
Au tribunal, Tina, la petite sœur, a vécu un moment très éprouvant. Ce que je ne comprenais pas, c'est que les données d'entrée étaient assez simples. Mon frère a trouvé la mort parce qu'il existait de nombreux manquements. Pourquoi était-ce alors si difficile de trouver un responsable? Bon, d'accord, c'est pas Monsieur Morel. Mais alors, j'attendais la suite. Naïvement, je me disais, c'est la procédure, elle va suivre son cours. Je ne suis pas juriste, mais ça me semblait le bon sens. Ce jugement n'est qu'une étape. La procédure devrait suivre son cours, en la dirigeant cette fois plus directement contre Gilles de Robien. Sauf que Sauf que justement, le parquet n'a rien fait. Rien. Nada.
J'ai assisté à l'appel du procès en 2010. Rebelote. Même cinéma. La pièce miracle qui sauve Jean-Marc Morel est brandie comme un trophée et les juges acquiescent. Seule variante. La famille Loubota était désormais défendue par un nouvel avocat du barreau de Paris, hors sérail amiénois, maître Sarfati, et qui tape du poing à la barre.
Durant les trois premières semaines, l'instruction est remarquable. Elle répond à la question pourquoi Hector est mort. Parce qu'on a envoyé des jeunes au combat, sur un chantier dépourvu de la moindre sécurité. Et puis, ensuite, tout s'enlise. Cette affaire dégénère en jeu de Bonneto. Vous connaissez ce jeu, conçu pour duper les badauds. Hop, 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 où il est mon coupable? Eh bien là, ce sont les Loubota qui perdent. À tous les coups. Durant des années, on leur dit de ne pas attaquer M. de Robien. Et, à l'audience, grâce à ce courrier, l'absolution est donnée in extremis à M. Morel. Bravo! Bien joué, le coup est parfait. Parce que si vous l'aviez retrouvé avant ce papier, M. Morel, s'il était tombé entre les mains d'un magistrat instructeur, M. de Robien serait là, aujourd'hui, à vos côtés. Ou peut-être plutôt à votre place. Tiens, d'ailleurs, j'ai remarqué dans cette cour, c'est un nom que vous avez du mal à prononcer, de Robien, ou alors sur la pointe des pieds. C'est un tabou? Je salue le parquet aussi, pour sa versatilité. Oh, mais après tout, ce n'est pas si grave. Ce sont des Congolais. Certes, naturalisés français, mais enfin un citoyen de deuxième zone qui ne compte pas tout à fait autant que les autres. La Cour européenne des droits de l'homme, qui impose l'égalité des armes entre les parties au procès, elle est à Strasbourg, mais Amiens apparemment n'est pas sur la même planète. Alors, si vous deviez à nouveau relaxer M. Morel, mes clients en tireraient les conséquences. Ça signifierait que le responsable de cette mort n'est autre que Gilles de Robien. Et vous nous contraindriez à le poursuivre par la voie de la citation directe.
Après la plaidoirie, les Loubota se sentent pas heureux, non, bien sûr que non, mais soulagés, un peu, que dans cette arène publique, entre les statues, les peintures, les hauts plafonds, des mots aient résonné emplis de leur colère. Le délibéré, lui, en revanche, ne laisse place à aucune surprise. Relax.
Dans cette affaire, un jugement a été rendu. Il ne plaît peut-être pas à la famille, mais c'est fait. Je le jure, la substitute Françoise Dalle a le sourire aux lèvres. Cette sentence, au tribunal, elle l'énonce avec légèreté, presque avec gaieté, invitant à repousser le nouveau procès inédié à plus tard au calende grec.
Son travail, celui de la justice, elle l'a fait, certes. Mais mal fait, un parfait loupé, un magnifique raté. Et voici qu'elle en tire une fierté. Voici que les Loubota apparaissent comme des gêneurs, des acharnés, des jamais contents. Injustice a été rendue. De quoi se plaignent-ils encore? Eux sont assis derrière moi, justement, avec le père, la mère, les filles, un oncle, et ils ne font plus silence. Leur banc bruit, les s'insurgent à mi-voix. Vous entendez ça? Éprouvant physiquement à nouveau aujourd'hui le mépris, car nous avons sous nos yeux un tableau de la vie provinciale. Il manque seulement un daumier pour le croquer. L'ancien adjoint à la sécurité, Hubert Delarue, ne figure pas au rang des accusés. Il intervient comme avocat pour son ancien maire. Le plaideur a posé une fesse, les deux maintenant, sur le bureau du procureur, et bavarde avec lui en maître des lieux, en franche connivence, comme s'il était dans son salon.
Seul manque à l'appel son client, Gilles de Robien, retenu à Genève. Lui n'est plus élu, plus ministre, plus député. Une nouvelle carrière s'est ouverte à lui. Il siège au Bureau international du travail, dont il préside le conseil d'administration, grâce au soutien conjoint de Nicolas Sarkozy et François Hollande. Il était à coup sûr le mieux qualifié pour œuvrer au bonheur des travailleurs et veiller à leur protection. L'audience est renvoyée.
Dans les couloirs du palais, les Lobota jouent les prolongations, analysant chaque phrase, disséquant chaque geste, se délivrant de tous les mots que si longtemps ils ont gardés pour eux. Le « c'est fait » de la procureure ne passe pas. Il dénonce cette arrogance. On a trop enduré. Et c'est là, entre deux portes, à la va-vite, sur une impulsion, que se décide la rédaction de ce livre. La tenue d'une réunion publique, la tentative, même modeste, même locale, d'appel à l'opinion pour contrer.
Résumons. 22 février 2002, mort d'Hector. 2008, clôture de l'enquête. 26 mars 2009, audience du procès contre Jean-Marc Morel. 1er juillet 2009, le jugement est rendu. Jean-Marc Morel est relaxé. Avril 2010, appel du procès, confirmation de la relaxe de Jean-Marc Morel. Novembre 2011, la famille Lobota a porté plainte par citation directe contre Gilles de Robian, le parquet ayant estimé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre l'ancien maire. Le 8 janvier 2013, première audience. Afin qu'il puisse se tenir sur une journée entière, le procès de Gilles de Robian est renvoyé au 11 juin. 11 juin 2013, le procès est reporté au 25 juin, Gilles de Robian ne pouvant pas assister à l'audience. 25 juin 2013, procès de Gilles de Robian. La juge Karen Stella demande un supplément d'enquête. Le procès est renvoyé au 16 janvier 2014. 16 janvier, le procès est renvoyé au 26 et 27 juin 2014 en raison de l'absence du supplément d'information demandé. Le 26 juin 2014, le procès est reporté en raison de la grève des avocats. 29 et 30 janvier 2015, le procès a lieu.
Il fait nuit noire dehors et depuis 12 heures, le tribunal correctionnel d'Amiens siège dans une salle d'audience qui s'est vidée. Depuis 12 heures, à la barre, défilent les responsables de la mairie, ou plutôt les irresponsables, directeurs généraux, chefs de service, adjoints à nœud papillon, tous jouant à « c'est pas moi, c'est l'autre », et en maître de ce jeu l'accusé, l'ancien maire et député et ministre Gilles de Robian. Gilles de Robian qui à son tour se décharge sur son administration territoriale, l'une des meilleures du monde, qui se dépeint en rêveur, qui imagine un projet, des objets, des missions, qui brasse des idées pour que la population soit plus heureuse. Depuis 12 heures, son avocat, lui-même ancien adjoint à la sécurité, gesticule, interrompt les témoins, parade comme au théâtre ce soir, et le président le rabroue. « Vous vous comportez comme un enfant, maître de la rue, vous ne faites pas honneur à votre profession. » Depuis 12 heures, depuis 13 ans, la famille Lobota se tait. Elle est appelée à la barre. Le président va leur laisser la parole, mais il tient à les avertir au préalable. De toute façon, c'est une procédure qui ne permet pas une indemnisation. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez été victime, je dirais, d'une erreur d'orientation parce que devant le tribunal administratif, vous auriez pu être indemnisé depuis si longtemps. C'est incroyable que vous ne le soyez pas. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, monsieur Lobota?
Je veux d'abord vous remercier parce que, voyez-vous, le drame que nous avons connu s'est déroulé il y a 13 ans. Et c'est la toute première fois qu'on nous entend. Mais j'aimerais que ce soit tout de même clair pour tout le monde. Lorsque nous nous adressons à votre juridiction, c'est pour avoir une réponse aux responsabilités. Tout de même, c'est tout de même un fils que nous avons perdu, vous comprenez? C'est pas un lapin, c'est pas un chien. Donc, c'est pas une question qu'on peut évacuer comme ça. On ne peut pas nous dire, allez au tribunal administratif, vous serez indemnisé, vous toucherez de l'argent. Je trouve ça un peu insultant. Excusez-moi, on a à manger, vous savez. Ce n'est pas une motivation financière qui nous guide. Nous voulons d'abord la vérité, ce qui s'est passé. J'ai perdu mon fils. Mais tout de même, lorsqu'un gamin a été tué, on ne dit pas aux parents, voilà le chèque. On ne dit pas d'avance, il n'y a pas de responsable. Jamais je n'ai vu un haut responsable venir nous présenter ses condoléances. Personne. Mais un fait qui me paraît outrageux. Le jour du décès de mon fils, je ne connais pas la dame qui est venue à ma maison, une soi-disant responsable de la mairie qui vient me dire « Alors que je viens de perdre mon fils, ça ne sert à rien de porter plainte. Votre fils n'a pas eu de chance, c'est tout, et ça ne va pas vous le rendre. » Vous comprenez? On se moque de nous, monsieur le président. Ça fait 13 ans. 13 ans déjà que nous avons déposé plainte. Est-ce que vraiment les magistrats d'Amiens ne voulaient pas de ce procès? Mesdames, qui êtes assises là, votre enfant va au travail, ne revient pas. Vous voyez ce que cela fait? Et là, nous sort des papiers, des ceci, des cela. Tout le monde reconnaît que c'était n'importe quoi, ce chantier, qu'on les a envoyés sans sécurité. Et tous ces gens qui se disent responsables, le maire, tous, sortent des papiers. Comme quoi la sécurité, c'est pas leur affaire. La sécurité, c'est l'affaire de personne. Je ne l'ai pas envoyé là-bas, comme dans un abattoir, mais pour chercher à l'insérer dans la société. Je vous prie de m'excuser si je déborde. Mais c'est le besoin de vérité qui me conduit devant le tribunal, c'est tout. Ce ne sont pas les motivations financières qui me guident. Que ce soit très très clair, nous savons ce qu'est un tribunal administratif. Mais nous sommes là, devant un tribunal correctionnel.
Je me présente. Je suis Tina Lubota, la petite sœur d'Hector. Vous savez, moi, je n'ai aucune animosité contre Monsieur de Robien. Mais il ne porte pas plus que moi, pas plus que mon frère, le sceau de l'humanité. On ne se trompe pas de tribunal. Parce que nous ne sommes pas stupides, nous sommes éduqués autant que toutes les personnes ici. Nous cherchons simplement à ce qu'à un moment donné, une personne se lève et dise, contrairement à ce que j'ai entendu tout au long de cette journée, « J'ai ma part de responsabilité, pas seulement qu'il y a eu un loupé, mais j'en suis en partie responsable. » Je ne suis pas architecte, mais je vous parle en qualité de responsable sécurité au travail. Parce que dans ma famille, comme ni la mairie ni la justice n'a voulu réparer cette injustice, on a voulu le faire nous-mêmes. Alors, j'ai fait des études pour travailler dans la prévention des risques au travail. Ma petite sœur est également ingénieure dans la prévention des risques professionnels. Mais on ne peut pas être les seuls à lutter contre ces accidents. Il faut aussi les institutions pour garantir que cela ne se reproduise plus. Les gens qui cherchent à gagner leur vie n'ont pas finalement à la perdre. Pour finir, je m'adresserai à Monsieur de Robien. Je comprends que ça peut être difficile de reconnaître un tort. Mais quand même, on parle de mon frère, d'un jeune homme de 19 ans qui est décédé sur un chantier où les conditions de sécurité étaient déplorables et on ne peut pas décemment dire qu'il n'appartenait à personne de s'assurer que ces conditions de sécurité étaient mises en place. Ce n'est pas décent.
12 mars 2015, Gilles de Robien est reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 10 000 euros d'amende, dont 5 000 euros avec sursis. Son avocat a fait appel.
Voilà, c'était donc la lecture de Hector est mort, et plus précisément j'ai confiance en la justice de ce pays, entre guillemets bien sûr, puisque c'était une citation, et l'objet de cette lecture était de montrer que bah, il avait tort d'avoir confiance dans la justice de ce pays. Et voilà, j'espère que ça vous a intéressé comme ça m'a intéressé. Je rappelle qu'il y aura donc une. C'est devenu cette lecture publique réalisée par l'AIAPEC à Mâcon, une association mâconnaise, est devenue depuis une pièce de théâtre qui sera jouée le dimanche 18 octobre à 14h au salon du Livre Libertaire à Cluny en Saône-et-Loire. Voilà, je vous laisse pour pas déborder sur le créneau horaire des copains et copines de la causerie, et je vous dis à la prochaine fois.